rapport d'activité militaire au cours donc de ces 7 derniers jours. Nous allons bientôt ouvrir la session de questions-réponses qui constitue la deuxième partie de cette conférence de presse. Mais avant, je voudrais vous rappeler que vous allez recevoir, comme à l'accoutumée à la fin de cette conférence de presse, l'ensemble des documents, y compris les communiqués de presse, le verbatim et autres documents. Voilà donc, venue cette session de questions-réponses, je vais vous demander d'éteindre vos portables, de le mettre sur silencieux. Et ensuite, nous allons ouvrir par un premier volet de questions ici à ma droite. Présentez-vous, le nom et puis la question.
Numérica TV, je voudrais profiter de la présence du général Wafi pour demander l'état des lieux actuels de l'opération de reddition volontaire des FDLR avant l'évaluation qui est prévue au mois d'octobre. Et une deuxième préoccupation, quelle est la position de la MONUSCO face au Mai Mai? Est-ce qu'ils sont programmés aussi comme les autres groupes armés qui ont été programmés pour leur reddition?
Général Wafi, premier volet de la question. Peut-être que le général Carlos dos Santos Cruz qui est à Goma prendra donc le deuxième volet de votre question avec la permission du colonel.
Oui, alors, mesdames et messieurs, bonjour. Pour répondre concrètement à la question qui a été posée par rapport au processus de désarmement volontaire des FDLR, nous sommes obligés de reconnaître qu'en l'état actuel des choses, ce processus bat de l'aile. Depuis le dernier point de presse que nous avons fait par rapport à cette opération, rien ne semble bouger. Notamment au niveau des deux sites de reddition. Je vais parler du site de Kanyabayonga dans le nord Kivu, le site de Walungu pour le sud Kivu. Il vous souviendra que depuis le vendredi 30 mai 2014, lorsque, à la suite de leur offre de désarmement volontaire, les éléments des FDLR sont rendus à Beloussa, et ensuite, le lundi 9 juin, à Kigogo, dans le sud Kivu, il n'y a pas eu d'autres opérations de désarmement volontaire. Pire, ceux qui sont regroupés dans ces deux sites, comme l'a prévu le plan qui a été mis en place, devraient être provisoirement relocalisés à Kisangani, avant d'être conduits à Eribou, dans l'Équateur, pour, en attente, disait-on, d'un pays tiers éventuel pour leur relocalisation définitive hors de la RDC. Le dernier événement en date, c'est la fameuse lettre que les FDLR ont envoyée au président en exercice de la SADC, le président Mugabe, lettre dans laquelle ils ont réitéré leur volonté sous aucune condition de quitter le Kivu, et donc de maintenir, de rester dans ces deux camps qui sont des camps de transit provisoire. À l'heure actuelle, il y a des initiatives politiques et diplomatiques en cours pour mettre la pression sur le leadership des FDLR pour leur donner une dernière chance de se rendre. À cet égard, il y a eu la réunion hier de l'organe de la SADC à Pretoria. Il y aura en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 septembre à New York, lors de la réunion du mécanisme régional. Cette question va être débattue, mais en tout état de cause, comme vous l'avez dit, le 2 octobre, il est prévu la revue à mi-parcours, telle que décidée le 2 juillet à Luanda, pour faire l'évaluation du processus. Ce n'est pas un mystère, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. À l'heure actuelle, le processus semble bien bloqué du seul fait des attermoiements des nouvelles conditionnalités posées par le leadership des FDLR et qui, pour nous, est à tous égards, pas pour nous seulement, mais pour les autorités congolaises, pour la SADC et pour la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, à tous égards inacceptable. Donc, encore une fois, la communauté internationale est en train de réitérer son appel aux FDLR pour désarmer sans condition et pouvoir être relocalisé hors de Kivu. Naturellement, si à la réunion du 2 octobre, les différentes instances de la SADC, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, et les autorités congolaises feront le point et vont tirer toutes les conséquences de ce refus de quitter le Kivu et éventuellement édicter les mesures à l'encontre du leadership de FDLR. Voilà donc en l'état actuel des choses, là où nous en sommes avec ce processus. En ce qui concerne le désarmement des autres groupes Maï-Maï, comme vous le savez, le plan de DDR numéro 3 de la RDC prévoit effectivement à peu près 12 000 ex-combattants qui doivent aller à travers le processus de DDR pour une enveloppe pour un montant de 85 millions de dollars à mobiliser pour la préparation et la réintégration de ces éléments. Naturellement, les groupes auxquels vous faites allusion sont inclus dans ce plan de DDR, ainsi que les ex-M23, l'ensemble des ex-combattants à démobiliser étant estimé aux alentours de 12 000 individus. Voilà ce que je peux vous dire à cet égard. Merci.
Rien à ajouter, général, de votre côté depuis Goma sur la question. C'est bon ? On prend la deuxième question ici. Oui, quelque part au milieu, allez-y. Présentez-vous.
Oui, merci. C'est venant vous dire ça pour la RTNC. Vous avez dit tout à l'heure, dit par rapport à la célébration de la Journée internationale de la paix, que la société civile congolaise sera associée. Mais compte tenu de la susceptibilité, disons, de cette société civile vis-à-vis, est-ce qu'il n'y a pas risque de voir une récupération quelconque dans cette marche ?
Par qui ?
Je ne sais pas.
Société civile, vous avez un point de vue à donner. Nous avons le secrétaire technique du cadre de concertation de la société civile qui est avec nous. Peut-être qu'il va vous dire un mot rapidement. Vous avez le micro.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Et pour nous, c'est une occasion de dire qu'effectivement, c'est une prudence à observer. La Journée internationale de la paix, c'est une Journée internationale de la paix, ça n'a aucune couleur. Et donc, nous devons prendre toutes les dispositions, nous tous, pour que cette journée reflète exactement une vision que la société civile congolaise cherche à enraciner, une culture de la paix dans notre pays et pas plus. Voilà la réaction. Et nous vous invitons tous à jouer la même prudence pour que ça ne soit pas une récupération à tous les niveaux.
Nous allons merci prendre beaucoup. Une troisième question ici avant d'aller à Goma. Bon, on est à côté du micro. Présentez-vous. Une question.
Je travaille pour RFI. Je voudrais faire un point sur ce qui se passe dans le Nord Kivu. On parle de centaines de réfugiés qui arrivent par vagues au niveau de Mirikir ou Samambo suite à une offensive combinée des FDLR et des Tcheka. Ma question du coup c'est de savoir qu'est-ce qui s'y passe exactement, combien il y a de réfugiés et quel est l'impact que cette attaque peut potentiellement avoir sur le processus de reddition des FDLR. Est-ce que la MINUSCO va réagir ?
Colonel ou le général ou qui se jette à l'eau?
Écoutez, elle fait allusion effectivement aux combats qui ont lieu entre les NDC et Tcheka, comme vous le savez, sur l'axe Walikale. Les éléments de Tcheka, lorsqu'ils ont été chassés grâce à la pression militaire de la MONUSCO et des FARDC de Pinga. Ce processus, effectivement, nous le suivons de très près parce qu'il est de nature à avoir un impact sur l'opération de désarmement volontaire des FDLR. Mais cela ramène aussi à la sécurité de cette opération de façon générale. Vous le savez, depuis trois mois que ce processus a commencé, je viens de le dire, il n'a pas avancé. L'objectif, c'était d'avoir ces gens hors de Kivu au fur et à mesure qu'ils se rendent. Si aujourd'hui, ils restent à Kanyabayonga, et qu'ils ne partent pas de Kanyabayonga du Nord Kivu, alors il y a des risques que d'autres groupes de spoilers puissent les attaquer ou que d'autres proxys qui sont utilisés puissent effectivement essayer de porter atteinte au processus en attaquant ces camps et en créant l'insécurité. Alors la question que nous posons nous-mêmes, c'est est-ce que cela n'est pas une manœuvre quelque part pour amener à la mort définitive de ce processus de reddition des FDLR.
Nous,
on nous a signalé effectivement beaucoup de déplacements de population, mais en l'état actuel des choses, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres. Les missions sont en train d'aller pour évaluer les conséquences humanitaires de ces clashs entre les éléments de Tcheka et les éléments de FDLR, Fouca essentiellement.
Nous, direction Goma, où nous allons prendre trois questions.
Oui. Il y a le général d'abord, peut-être, qui va réagir par rapport à Tcheka et tout ce qu'on a posé comme question.
Général Dou.
Il y avait quelques confrontations entre groupes de FDLR et Tchèque. Mais c'est une petite confrontation il y a quelques fois dans la région. Alors, ce n'est pas une situation exceptionnelle hier.
Ok. Bernardin Yagi.
Je suis Bernardin de Radio Capi. Ma question va s'adresser aussi au général Wafi, au colonel Basse. Jeka et ses combattants de MDC ont attaqué. On fait une incursion dans la localité de Bunyateng et aussi la localité de Mwanga. C'est au sud-ouest du territoire de Lubero. C'était hier, mais ils y sont répartis ce matin. Mais ils ont pillé le village et ils auraient laissé un message au colonel Sikouli, La Fontaine, que tous ceux qui vont collaborer avec les FDLR vont être traqués par MDC de Cheka. Et la semaine passée encore, ils ont fait une autre incursion, toujours pareil, aux côtés de Kassour, toujours au sud de Lubero. Alors, il y a deux questions, en fait, qui se soulèvent. La première, est-ce que Cheka a encore repris sa capacité de nuisance? Et une autre question, c'est de savoir, est-ce ces incursions-là ne vont pas encore poser beaucoup d'autres problèmes au processus actuel de reddition des FDLR?
Réponse du général.
Oui. Oui, il y avait hier, avant hier, l'opération et les confrontations de Tchèques au niveau de Bunyateng, Tassogo et Mwanga. Et hier, MONUSCO a lancé la reconnaissance dans la région. Nous avons maintenant toutes les informations. J'étais à Pinga avec le commandant de la 8e région militaire ici. Je ne crois pas que Tchèque a au niveau de capacité d'opération. C'est la activité criminelle de Tchèque que nous avons régulièrement, et nous sommes engagés de traquer ces groupes armés et tous les groupes armés et Tchèque aussi à l'ouest de Lubero.
Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Merci pour la parole, c'est Digital Congo, Constance Tapakou. Ma question s'adresse aux messieurs de la société civile. Est-ce qu'il est au courant que la société civile du Nord Kivu ne voudrait pas de ses concerts à l'aéroport de Goma? Est-ce qu'il parle le même langage avec les autres membres de la société civile? L'autre préoccupation, hier la MONUSCO a inauguré les ponts des Mouchaki dont vous avez parlé par le biais du général. Est-ce que vous êtes au courant que après cette route et avant, la route n'est pas praticable? Pour dire que vous avez inauguré les ponts, est-ce qu'il sera durable? Aussi, la MONUSCO avait promis de réhabiliter des tronçons vers l'aéroport de Goma et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Qu'en est-il, Monsieur Bambara?
Ok.
Non, on va répondre d'abord à la question sur la société civile ici et puis on va vous donner la parole générale.
Société civile?
Oui, merci pour la question. Là, au niveau local, il y a une organisation qui est là. La journée internationale de la paix, ce n'est pas une journée propre à nous. C'est une journée internationale et ça se commémore un peu partout à travers le monde. Et donc nous, la RDC, qui sommes dans cette situation post-conflit et qui accueillons une mission peut-être la plus importante au monde en matière de paix, nous ne voyons pas qu'il y a lieu de créer de polémiques autour d'une journée qui se commémore chaque jour. Dans toutes les provinces, la société civile organise chaque année cette journée, mais à travers des organisations par thématique. Et donc, si à Goma, on veut en faire une fête d'un élan un peu important, ça signifie que c'est une organisation locale. et ça n'a pas de polémique pour ça. Il n'y a pas de polémique au niveau de la société civile sur cette question. Ici à Kinshasa, nous allons la commémorer puisque nous avons l'obligation d'enraciner la culture de la paix dans notre pays.
À travers voilà des activités réalité. Différentes et
tout. Oui.
Voilà.
Et ça s'est fait au Kasaï, ça va se faire au sud Kivu, au nord Kivu et dans d'autres provinces aussi. Il n'y a pas que Goma.
Ok, merci. Kinshasa, oui. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on aille à Goma?
Oui, pour en ce qui concerne le concert auquel elle a fait allusion à Goma, je crois qu'il est quand même extrêmement important que la société civile de Goma, les habitants de Goma et au-delà la population de la RDC se rendent compte que ce concert qui sera organisé à Goma, qui aura une couverture planétaire. Le monde entier pourra suivre ce concert qui va se dérouler à Goma. C'est une opportunité, c'est une occasion unique pour l'ensemble du monde entier de voir autre chose à Goma que les images de souffrance, de guerre et de sabotage. Je pense que c'est un signal très fort vers le retour de la paix, vers le retour de la stabilité, pour susciter l'intérêt des investisseurs, des bailleurs de fonds et de l'ensemble du monde pour les populations de Goma. Alors, s'il vous plaît, laissons pour une fois les controverses, les dissensions, pour ne voir que l'impact positif que cela peut avoir sur les populations, sur cette région qui a des potentialités fabuleuses, mais qui jusqu'à présent n'a connu que l'instabilité, la guerre et la souffrance.
Général Dos Santos Cruz, la parole est à vous à Goma.
Ok. Il y a deux points ici. Le premier point, c'est le pont de Mouchaki. Hein? Le pont de Mouchaki, c'est un point qui est critique dans la route qui était nécessaire de la réparation. Il est un travail de plus de 5 000 dollars, 120 000 dollars, que l'ingénieur militaire de Bangladesh a fait là-bas pour possibiliter la utilisation normale de la route dans la région. Il y a beaucoup de travail à faire. Em todas as routes aqui, não é só alemã, a rua Guadicali, mas toda a região, e nós vamos continuar trabalho. Mas não é possível a promessa de reparar todas as routes aqui. Porque, hier, j'étais a Kazek, e já marchei 10 km por arriver là-bas. Il n'y a pas de route. Alors, ce n'est pas possible de parler de promesses de la récupération de toutes les routes. Mais nous allons continuer travailler avec l'ingénieur militaire. D'autres points, c'est la route à l'aéroport ici. C'est une question que ce n'est pas militaire, c'est une question de l'administration de MONUSCO, mais nous sommes engagés aussi parce que l'ingénieur militaire travaille pour l'administration ce moment ici. Je pense que c'est la troisième fois parce que c'est une route très difficile. Mais nous avons plus de 3 000 véhicules tous les jours dans la route à l'aéroport. Et nous allons travailler dans les points critiques là-bas, vous connaissez très bien les points critiques près du cimetière pour le drainage de cette point là-bas. Nous dépendons de l'administration pour continuer le travail. Mais il y a une expectative, une. De la population.
Troisième question à Goma.
Oui. Troisième question, papy.
C'est papy au kit du journal Écho de Pigeon. Ma question, je la pose au général Wafi, qui est de savoir, au moins, mon général, la question des groupes armés. Je vous pose cette question parce que vous êtes chargé des opérations à l'aide. Et aujourd'hui, depuis que vous avez dit attaquer les groupes armés, vous n'avez jamais, c'est-à-dire la population constate qu'on n'a jamais, la MONUSCO ou la brigade n'attaque aucun groupe armé au niveau du Nord Kivu, alors qu'ils sont, ils ont une, des capacités vraiment de nuisance un peu exagérées. Si nous faisons un feedback la semaine passée, le colonel Bass nous avait dit que Tcheka, son niveau était de 15 à 17, mais aujourd'hui Tcheka fait encore surface au niveau de Walikale et il revient en France. Il demande de montants exorbitants à la population pour soutenir son mouvement. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez pris cette situation au sérieux au début de le dire à la population?
Général Wafi d'abord.
Dire que nous n'exécutons pas notre mandat de neutraliser le groupe armé, je crois que c'est aller vite en besogne. Je ne veux pas parler du M23 dont la défaite, la contribution de la MONUSCO a été assez importante dans sa défaite. N'eût été le processus de désarmement volontaire demandé par le gouvernement congolais, par les autorités de la SADC et de la conférence de la région des Grands Lacs, nous serions en ce moment en train d'attaquer l'FDLR. Il nous a été demandé de donner une chance au processus pacifique. Nous l'avons fait. Si demain, les autorités de la SADC, de ICGLR et les autorités congolaises décidaient d'attaquer l'FDLR, nous serons en première position. C'est clair. En ce qui concerne Tcheka, Tcheka était comme base arrière principale la ville de Pinga. Il en a été chassé et aujourd'hui sa capacité de nuisance est quand même assez diminuée. Il vit de rapines, d'extractions criminelles par-ci par-là. Tcheka ne constitue plus une menace militaire, une cible militaire en tant que telle. Cela dit, nous sommes en train de le pister et à tout moment, les éléments de la force de la MONUSCO peuvent l'engager dès que cela sera possible. L'appelesse de janvier en négociation avec le général Kaïbi pour se rendre. S'il ne se rend pas, des actions militaires seront entreprises pour les désarmer. Au niveau du FRPI, il y a des opérations conjointes qui sont préparées. L'état de préparation est assez avancé. Si là aussi, Cobra Matata et le FRPI ne désarment pas, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y aura des opérations militaires contre eux. Alors, dans ces conditions-là, je crois qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Vous savez, nous opérons dans un contexte extrêmement difficile et il n'est pas aussi aisé. Ce n'est pas une promenade de santé. Voilà.
Merci. On va prendre une question. À... Oui.
Peut-être pour rajouter à la suite du député SRSD que aujourd'hui, Tcheka, ses effectifs ont subi un taux d'attrition très élevé du fait de la pression militaire qui est exercée et par les FRDC, le 813e régiment et les autres régiments. De ce fait, le général l'a rappelé, il a été dégagé de Pinga, où c'était sa zone de prédilection, par le contingent uruguayen. Aujourd'hui, il a traversé la rivière Osso pour se rendre vers le nord. Il y a une dissension au sein même du groupe de Tcheka parce que son adjoint Guidéon a fait dissension. Donc c'est pour vous dire que sa capacité de nuisance est fortement réduite. Et aujourd'hui, les FRDC et la MONUSCO sont à ses trousses. Et très bientôt, je pense qu'on lui mettra la main dessus pour mettre un terme aux activités négatives qu'il fait subir aux populations civiles de cette région-là.
Alors, nous allons quand même continuer cette conférence de presse, même si je vois que Radio Okapi va se désynchroniser pour le journal. Nous allons prendre, nous, une question sur la gauche, au fond, qui demandait la parole avec insistance. Une question, hein, s'il vous plaît, parce qu'on tire à la fin. Une question.
Hakim Kombo, Krakim Télévision, toujours le général Abdallah Wafi. Les informations en provenance de Kibali, non loin d'Ouvira, font état de la présence des jeunes Burundais du pouvoir au Burundi qui s'entraînent, estimés entre 750 et 900 personnes. Est-ce que vous, MONUSCO, en tant que chargé des opérations, comme on l'a dit tout à l'heure, pouvez-vous confirmer à la population congolaise cette présence ou l'infirmer?
Le général Dos Santos ou le général Wafi, vous prenez la parole en premier.
Ok.
Oui, en ce qui concerne la présence à laquelle vous faites allusion, nous avons, comme vous, reçu des informations sur une éventuelle présence de jeunes et de moins jeunes, mais en l'état actuel des choses, la MONUSCO, nous ne sommes pas en mesure de confirmer. Nous avons envoyé du personnel pour évaluer cette situation, mais pour l'instant, vous comprenez, 800 à 900, dites-vous, de jeunes, je ne crois pas qu'il puisse passer inaperçu dans cette région. Mais en tout état de cause, le moment venu, nous vous dirons ce que nous pensons par rapport à ces informations, mais qui restent à être confirmées. Hein. Nous allons le vérifier.
Gérald Dos Santos Cruz, quelque chose à ajouter ou c'est bon? C'est bon?
Non, c'est bon.
Ok. On va prendre une question, oui, à la droite, un peu. Il y a la dame à côté et puis ensuite, voilà. Présentez-vous.
Laurette Mandal à Africa Télévision. J'ai deux petites minuscules questions. La première question, je la pose au porte-parole militaire. Je vous ai entendu parler des opérations, mais vous n'avez pas évoqué l'opération Soukola 1. Où en sommes-nous? Est-ce que vous avez arrêté ou les opérations se poursuivent au Nord Kivu? Et puis une deuxième petite question, c'est au général Abdallah Wafi. Depuis que la MONUSCO a commencé à neutraliser les groupes armés au Nord Kivu, j'aimerais quand même savoir, général, combien des groupes armés ont complètement disparu dans cette province.
Merci pour votre question. Donc, l'opération Soukola 1, comme vous le savez, qui a engrangé des résultats très satisfaisants, se poursuit normalement. Les FRDC ont réussi à capturer tous les bastions jadis occupés par le groupe ADF dans cette région du territoire de Béni. Et aujourd'hui, la MONUSCO poursuit son soutien à ces opérations-là, son soutien logistique, son soutien tactique, son soutien médical, son soutien en termes d'acquisition de renseignements pour permettre aux FRDC de progresser dans cette zone-là. Mais n'ignorez pas non plus que dans cette zone-là, nous avons affaire à de nombreux otages qui, fort heureusement, ont fait preuve d'un courage quand même très important, parce que face à la pression militaire, beaucoup d'otages ont réussi à sortir des bois, et il faut aussi louer l'effort et consenti par les soldats FRDC qui portent à dos d'homme tous ces otages en vue de les mettre en sécurité. Et c'est à ce titre que la MONUSCO a établi une base à partir du pont de Semiliki, justement pour prendre en compte tous ces otages malades, affaiblis, et éventuellement les transférer par voie aérienne vers des structures hospitalières appropriées. Les opérations se poursuivent avec détermination, et nous pensons que très bientôt nous aurons des résultats beaucoup plus favorables pour que la paix revienne dans cette région.
Général Abdallah Wafi, les groupes armés qui ont disparu, qui vont peut-être disparaître bientôt d'ailleurs.
Oui, pour répondre concrètement à cette question, je vous donne l'exemple du FDLR. Il y a de cela quelques années, le FDLR était estimé à plus de 20 000 combattants. Aujourd'hui, on parle d'une force résiduelle de 1500. S'ils n'ont pas disparu, ils ne constituent plus à nos yeux une véritable menace militaire. Grâce aux opérations conjointes avec les FARDC, grâce aux dispositifs de DDR, je vous rappelle, les 10 dernières années, nous avons réussi, grâce aux opérations militaires, grâce aux actions militaires, à démobiliser plus de 12 000 éléments de FDLR. Aujourd'hui, nous voulons vous le dire, Tcheka était dans la ville de Pinga, en train de faire subir les pires atrocités aux populations civiles. Le bataillon uruguayen l'en a chassé. Pinga est passé aujourd'hui de 4 000 habitants à près de 30 000 habitants. Le groupe de Tcheka qui faisait la pluie et le beau temps, aujourd'hui, il se cache dans la forêt pour vivre de rapines, de viols et d'activités criminelles. Je peux vous en citer d'autres, mais naturellement, s'ils n'ont pas disparu, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les groupes armés, que ce soit au Nord Kivu ou au Sud Kivu, constituent réellement une force militaire de nature à contester l'autorité de l'État. Ils sont en voie de neutralisation. Ils sont singulièrement affaiblis. Et d'ailleurs, si vous voyez toutes ces négociations qui ont lieu les janvier, c'est parce que la pression militaire est sur eux. Dès que la pression militaire est forte, ils demandent à négocier. C'est la même chose pour les FDLR. C'est parce qu'ils ont senti les pressions militaires qu'ils ont demandé à négocier. Et donc, encore une fois, je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore du chemin à faire. Vous avez raison.
Je vais prendre une dernière question ici avant d'aller à Goma pour peut-être une ou deux questions avant de mettre fin à cette conférence de presse. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris. Je m'interroge toujours à propos de la prédilection que vous avez à la MONUSCO de parler des îlots de stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Sur le plan dimension, les îlots renvoient à des petits périmètres de terre. Lorsque vous concentrez vos efforts pour des îlots de stabilité, des petites dimensions de terre, ne craignez-vous pas de travailler en vain? Parce qu'autour de ces îlots de stabilité, il y a des gros territoires d'instabilité, des continents d'instabilité. Ne craignez-vous pas de travailler en vain, parce que vos efforts seront résorbés par la présence des grosses dimensions d'instabilité.
Général Wafi.
Mais vous avez parfaitement raison, parce que des îlots, quand on parle d'îlots, c'est dans un océan. Alors, îlots de stabilité dans un océan d'instabilité. Et l'objectif, c'est de faire que, après, ces îlots deviennent, eux, des océans de stabilité. Alors, je vais vous expliquer le concept. Il est très simple. Aujourd'hui, lorsque nous aidons, grâce à l'appui conjoint des FARDC et de la force militaire de la MONUSCO, que des zones sont débarrassées de groupes armés, il faut aider l'autorité de l'État à se redéployer très rapidement. Et c'est ça le concept d'îlot de stabilité, parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas laisser ces zones-là, dans le cadre de notre stratégie de stabilisation avec le STAREC. Vous le savez, si on doit développer des projets de développement, ça peut prendre un an, le temps de ficeler le projet, de mobiliser les ressources et d'exécuter cela. Voilà pourquoi nous avons développer ce concept d'îlot de stabilité comme mesure intérimaire, mais à très court terme, pour pouvoir soutenir l'autorité de l'État. Là où elle n'existe pas, pour pouvoir la redéployer, lorsque le M23 a été chassé de Kiwanja de Rutshuru, vous pensez que l'administrateur du territoire qui a demandé notre appui, si nous lui disons, ok, nous avons la stratégie de stabilisation, mais nous allons vous aider dans un an. Quand je suis allé le voir, il m'a dit, écoutez, regardez mon bureau, j'ai même pas de fenêtre, tout a été pillé. Alors, grâce à ces îlots de stabilité, nous avons aidé et la police, et la justice, et la prison de Kiwanja à très rapidement se déployer pour assumer leurs responsabilités. C'est ce que nous avons appelé l'îlot de stabilité. À Walikale, aujourd'hui, l'autorité de l'État est très faible. Et nous aidons, grâce à ce concept d'îlot de stabilité, de mobiliser des ressources, y compris dans les ressources de la MONUSCO, pour faire un appui, certes léger, mais d'urgence, comme mesure prioritaire, pour aider l'administrateur du territoire, la justice militaire, la justice civile, la prison, la PNC, autant de symboles de l'État qui, souvent, vous ne pouvez pas l'imaginer, manquent du strict minimum. J'ai été à Walikale, nous avons rencontré l'administrateur du territoire, avec le gouverneur Paluku, avec M. Martin Kobler, près de 500 éléments de la PNC dans le territoire de Walikale. 400 ont été intégrés de groupes armés sans formation. Il y a des besoins de formation. Il faut les former. Un seul véhicule pour le territoire, pour la PNC. Vous voyez que, grâce à ce îlot de stabilité, avec les ressources que nous allons mobiliser, ça va permettre d'appuyer les autorités locales en attendant la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation qui, elle, interviendra dans un an, dans deux ans, pour pouvoir construire des infrastructures et pouvoir aboutir à une véritable stabilisation de l'entière de la zone, la zone tout entière.
Général Dos Santos Cruz, vous voulez dire un mot?
Oui, pour savoir exactement ce que signifie l'îlot de stabilité, c'est nécessaire d'aller
sur le terrain.
Dans le terrain. Hier, j'étais à Pinga. J'arrivais là-bas avec le commandant de la 8e région militaire. Il y avait les troupes de MONUSCO, de l'Uruguayenne, de la police nationale, près de 40 militaires de la police, policière, avec uniforme de haut niveau, la FRDC. La população maintenant, c'est 25 000 personnes là-bas, étaient 4 000 avant la stabilisation. Hein? Il y a les marchés dans la ville. Il y avait l'inauguration d'une antenne de cell phone. Et maintenant, c'est possible d'utiliser le cell phone à Pinga. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a beaucoup de modifications dans la région. Alors, c'est pour avoir une compréhension de ce que signifie la stabilisation, c'est important d'aller à terrain.
Tout à fait. Effectivement. Nous allons rester à Goma pour prendre une dernière question avant la fin de cette conférence de presse. Goma.
Oui.
au fond là-bas.
Aussi, c'est Justin Kissou Mugeli de la radio communautaire de Walikale. J'ai deux petites questions. La première s'adresse à Geneviève. C'est pas si elle a un plat, s'il y a un plat spécial humanitaire dans les zones que l'on appelle îlots de stabilité, de la paix, précisément à Oninga et à Bunyadenge, les coins les plus reculés. Si du moins il y a un plat spécial dans ces endroits, dans ces régions là-bas. La deuxième question, c'est peut-être une question de curiosité adressée à Abdallah Afi. Le 15 septembre de chaque année, le monde entier commémore la journée internationale de la démocratie. Mon général Abdallah, c'est parce que peut-on me rassurer, que vous pouvez me rassurer si du moins au Rwanda il y a de la démocratie.
Pardon, on va répondre à la question s'il vous plaît. Hein. Voilà. Général.
Moi, je suis accrédité en République démocratique du Congo. Mais pour votre information, je suis accrédité ici depuis 5 ans et demi. Je n'ai jamais mis les pieds même à Gisenyi, encore moins à Kigali. Donc, je ne sais rien du Rwanda.
La première partie de la question était sur... est-ce qu'il y a un plan spécial développé au niveau des agences des Nations Unies en faveur des îlots de stabilité, Geneviève?
Pour ça, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour collecter quelques informations et vous consolider la réponse. Si vous vous limitez à l'aspect strictement humanitaire, donc on aura, je chercherai les réponses en fonction de ça. Mais si c'est plus lié au développement, je le ferai aussi. Donc je vous donnerai cette information la semaine prochaine.
D'accord. Général Abdallah Wafi, vous êtes quand même le maître d'œuvre de ces îlots de stabilité. Est-ce que vous travaillez en conjonction avec les agences des Nations Unies dessus?
Non, absolument. Il est extrêmement important d'avoir les agences des Nations Unies pour appuyer, parce que pas seulement les agences, mais y compris tous les bailleurs de fonds, parce que ce que nous faisons dans le cadre des îlots de stabilité doit être continué dans le cadre de la stabilisation en général et naturellement par des actions de développement. Mais je voudrais saisir quand même l'occasion, puisque ça semble de plus en plus susciter d'intérêt, pour demander à la presse, aux médias, de soutenir cette initiative, parce que j'ai l'impression que quelque part aussi, les attentes sont très hautes en ce qui concerne la MONUSCO. C'est comme si vous nous demandez de nous substituer aux autorités congolaises, à l'ensemble des instances congolaises, pour prendre à bras le corps et la stabilisation. Non, nous voulons appuyer les autorités congolaises, locales, provinciales, pour restaurer l'autorité de l'État congolais. Et comme l'a dit le général de Santa Cruz, Pinga, la police des Nations Unies a amené la police nationale congolaise, en les aidant, en amenant par le transport, en donnant des rations, en donnant du carburant, pour leur permettre de se déployer, pour sécuriser leur propre population. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de ces îlots de stabilité, ce que nous faisons en appui aux autorités locales et provinciales, que ce soit l'administration du territoire, ou la police, la justice militaire, l'administration pénitentiaire, nous devons avoir aussi le soutien des autorités congolaises. Et pour cela, nous comptons sur les médias congolais pour mobiliser, appuyer ces initiatives pour que nous puissions atteindre les objectifs qui sont en définitive la restauration de l'autorité de l'État pour la protection de ces populations civiles congolaises. Je vous remercie.
Merci au général Wafi, merci au général Carlos dos Santos Cruz, et c'est la fin de cette conférence de presse. À la semaine prochaine.